Et maintenant, vous êtes avec les chants du crépuscule. Pendant une heure et demie, un lundi soir par mois, les chants du crépuscule vous font plonger dans des extraits sonores, souvent des musiques populaires. Une coproduction Compagnie des rêves lucides avec Radio Campus Paris.
Après une émission dédiée aux musiques de la Géorgie, les Chants du Crépuscule accueillent l'ethnomusicologue Jérôme Clair. Enseignant-chercheur à la Sorbonne Université, il profite actuellement de 2 années sabbatiques pendant lesquelles il ne donne pas de cours pour coécrire un nouvel ouvrage scientifique avec 2 autres collègues, un anthropologue et un historien. Jérôme a vécu et enseigné en Colombie. En parallèle à son activité académique, il organise des stages de musique où, pendant une semaine intense, il propose une immersion dans les musiques orientales au sens très large, c'est-à-dire la musique des Balkans, de la Turquie, du Caucase et de l'Europe orientale, le Sud-Est, dans laquelle s'insère une partie de la Serbie, Bulgarie et la Grèce, rassemblant ainsi plusieurs cultures modales. Jérôme se produit également dans des groupes de musique, dans l'ensemble Balkor, certains plus ou moins éphémères que d'autres, juste pour le plaisir de jouer ensemble des répertoires de tradition orale. Lors de notre entretien, Jérôme Clair m'a expliqué que la tendance dans sa famille était que les hommes s'intéressaient plutôt aux livres, alors que les femmes se penchaient plus vers la musique. Sa mère était une brillante pianiste qui n'a pas fait de carrière, tout comme ses sœurs. Au début, il a été marqué par des compositeurs tels que Ravel, Bartok, Stravinsky, et plus particulièrement, le morceau Petrushka de ce dernier. Néanmoins, en plus de la tradition musicale classique, sa mère a également ouvert sa curiosité vers d'autres univers musicaux, notamment en l'emmenant au concert de Pink Floyd au Palais des Sports quand il avait 12 ans. Dans sa jeunesse, Jérôme Clair était fasciné par la guitare basse de la musique pop et se servait du piano pour décortiquer l'art de la fugue en jouant la pièce très lentement pour mieux suivre les voix d'une manière presque analytique. Puis éplucher le répertoire de Bartok lui a permis de découvrir une très grande variété de rythmes. Or, ce n'est qu'à mi-chemin entre la vingtaine et la trentaine, lorsque Jérôme Clair enseignait le français en tant que langue étrangère à l'Institut français de Madrid, qu'il a commencé à pratiquer un instrument de manière très dévouée. C'était la guitare flamenca. Après avoir vu un talentueux nord-américain la jouer dans une peña, pendant ses 2 années à Madrid, Jérôme s'est mis à pratiquer la guitare flamenca pendant 4 ou 5 heures par jour, car les cours qu'il dispensait n'avaient lieu que le soir.
Oui, mais je ne vais pas jamais dire que le piano était mon instrument, hein, ce que je précise, parce que je n'ai pas travaillé le piano. J'en ai fait, j'ai eu le plaisir de mettre mes doigts sur le clavier et de faire des choses, mais... Voilà, donc par contre, la guitare, ce qui était très différent, c'était ce rapport physique, disons, avec l'instrument, abrazar la guitarra, comme on dit, hein, évidemment. La guitare, on l'embrasse et tout. Le piano, on l'a au bout des doigts. Et ça, c'est vrai que pour moi, ça a été quand même aussi une grande découverte. Un instrument qui vibre contre son propre corps, c'est quand même autre chose que le piano de ce côté-là.
Alors qu'à la fin de mon master, d'autres chercheurs m'ont conseillé de ne pas poursuivre mes études en doctorat, voire de changer d'orientation, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que Jérôme Clerc a accepté de co-diriger ma thèse avec Salwa Castello-Branco, l'autrice du premier livre d'ethnomusicologie que j'ai lu. En conséquence, comme vous pouvez l'imaginer, préparer cette émission avec Jérôme a été spécialement touchant pour moi. Celles et ceux qui connaissent son caractère généreux et autodérisoire pourront le comprendre. Mais vous, chères auditrices et chers auditeurs, vous avez raison de vous demander comment Jérôme Clerc vous touchera. Et qui de mieux que lui-même pour vous présenter l'émission d'aujourd'hui ? Moi, c'est Carlos Balbino, et vous êtes avec Les Chants du Crépuscule, une émission sur les musiques non universelles, coproduite par Radio Campus Paris et la Compagnie des Rêves Lucides.
J'ai réfléchi à proposer un petit parcours à travers justement des points marquants, disons, de l'histoire qui m'a mené ensuite à faire, on va dire, de la recherche. C'est-à-dire, quand on devient chercheur, on ne se dit pas, tiens, je vais faire de la recherche en ethnomusicologie et je me lance, je vais aller quelque part. Et puis, non, ce n'est pas du tout comme ça. C'est qu'il y a eu des chocs, il y a eu toute une préparation, un trajet, des balises, on va dire, dans le temps et dans l'espace aussi, qui ont finalement mené à une rencontre. Et puis, j'ai réalisé qu'effectivement, j'étais déjà engagé dans un processus. Alors, quel processus ? Ça veut dire non seulement, évidemment, écouter, partager la musique, mais à partir du moment où on a envie de comprendre, eh bien, on se met dans une démarche qui est quand même un peu analytique. Et c'est là que ça accroche à quelque chose qui s'appelle une discipline de sciences humaines, enfin bon, qu'on l'appelle ethnologie de la musique ou anthropologie musicale, peu importe. Hein. Ethnomusicologie, moi j'aime bien dire géomusicologie, parce que je pense à des musiques qui sont très très installées dans des territoires, en fait, dans des lieux très précis. C'est des musiques qui ne se déplacent pas forcément. Alors il y a deux dimensions, mais le fil directeur, on va dire, c'est un son finalement. Puisque si j'essaye de remonter dans le passé, dans ma mémoire, ce qui m'a quand même frappé d'abord, c'est surtout un timbre, un son. C'est-à-dire que je pourrais résumer vraiment très simplement, quoi. C'est-à-dire plectre souple sur corde de métal, on peut dire. Voilà, pour commencer. Et je ne saurais jamais expliquer ni dire pourquoi ça m'a touché au point qu'après, ça devienne... en fait, toute une recherche, une aventure, puisque je suis allé à la recherche de quelque chose que j'ai entendu dans des enregistrements. Et après, j'ai essayé de le trouver, on va dire, en vrai. Bon, est-ce que j'y suis arrivé ? Oui, justement, ça, je vais un peu raconter. Donc, le fil directeur, le timbre, oui, et en même temps, c'est là que tout revient aussi. Instruments, chant et danse, ils vont toujours se résumer aussi dans cette... figure d'un son, d'un timbre. Darkness at the break of noon, shadows, even the silver spoon, the handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon, to understand you know too soon, there is no sense in trying. Pointed threats, they bluff with scorn. Suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece. The hollow horn plays wasted words, proves to warn that he not busy being born is busy dying.
lamentations page flies out the door. You follow, find yourself at war. Watch waterfalls of pity roar. You feel the moan, but unlike before, you discover that you just be one more person crying. So don't fear if you hear a foreign sound to your ear. It's all right, Ma, I'm only sighing.
Avec cette chanson que je vénère, je trouve que c'est peut-être une des plus belles, sinon la plus belle pour moi, en tout cas, que Bob Dylan ait écrite et interprétée, parce que je suis fasciné toujours, à chaque fois que je l'écoute. Je veux dire, même si on n'a pas, on comprend pas tout le texte, qui est un texte en plus d'une beauté poétique quand même impressionnante, je veux dire, il a mérité vraiment son prix Nobel de littérature quand on lit ses poèmes. Mais sa diction, la clarté de sa diction, enfin l'expressivité, cette espèce de maîtrise qu'il a de la langue, ça je trouve ça extraordinaire dans le chant. Mais surtout, voilà, l'idée c'est que déjà il est tout seul avec sa guitare et c'est un poète en fait, c'est ça qui m'intéresse là-dedans. Parce que finalement... Il y a une figure derrière tout ça que j'appellerais celle du troubadour, on va dire, pour dire les choses rapidement, mais qui est une figure extrêmement présente et courante en Turquie. Bon, ça c'est le premier point, donc c'est un peu comme un modèle.
Our preachers preach of evil fates. Teachers teach that knowledge waits can lead to $100 plates. Goodness hides behind its gates. But even the president of the United States sometimes must have to stand naked. Though the rules of the road have been lodged, it's only people's games you got to dodge. And it's all right, Ma, I can make it. Advertising signs that con you into thinking you're the one that can do what's never been done, that can win what's never been won. Meantime, life outside goes on all around you. You lose yourself, you reappear. You suddenly find you got nothing to fear. Alone you stand with nobody near. When a trembling distant voice unclear startles your sleeping ears to hear that somebody thinks they really found you.
Deuxième point, ce qui me plaît beaucoup dans cette chanson, c'est qu'en gros, lui, il chante quasiment sur une seule note. Alors, il y a des petites variantes grâce à l'harmonie de la guitare derrière, évidemment. Mais c'est quasiment qu'une seule note et à la fin, la petite formule conclusive. Moi. Et c'est vraiment cette espèce d'agencement très, très minimaliste qui me réjouit énormément. Et puis, il y a un troisième point qui est qu'en 2000 et quelques, 2002 ou 2003, je ne sais plus trop quand, j'étais avec les copains à Istanbul et tout, et ils me disent « Ah oui, tu sais, Bob Dylan était turc. » Je dis « Mais c'est quoi cette histoire ?» Elle dit « Ouais, ouais, il était turc, en fait. » Il était de... Alors les gens, ils me disaient de Kars, donc ils se trompaient parce que c'est Trabzon, en fait. C'est parce que Bob Dylan, dans ses chroniques, dans le volume 1, il raconte que, certes, lui s'appelle Robert Zimmerman, donc c'est un juif ashkénaze du côté de son père, mais qu'en fait, sa grand-mère était une juive de Turquie. Et qu'il raconte dans ses chroniques qu'en plus, la grand-mère, elle avait un nom alors typiquement turc, quoi, Kirghiz, donc c'est très étonnant. Donc, comme les Turcs sont quand même, il faut le rappeler, hein, assez nationalistes et tout ça, tout le monde s'est emparé de ce truc. Ils disaient, tu vois, Bob Dylan est turc. Mais pour moi, donc, à part l'aspect plaisanterie de ça, et qui est un peu drôle, évidemment, ce qui m'intéresse quand même beaucoup, c'est que ça m'a toujours frappé. J'écoutais les poètes en Turquie, les chanteurs et tout ça, et j'avais toujours ce vieux modèle, finalement, de quelque chose qui me parlait très profondément parce que, évidemment, j'ai été un fan de Bob Dylan quand j'avais 15 ans, quoi. Et j'étais stupéfait par sa poésie. Au début, j'aimais pas trop sa voix et tout, mais en fait, tout le reste permettait de dépasser ces aspects-là. Bon. Et donc, on peut écouter justement maintenant l'exemple que j'ai mis en parallèle, on va dire, hein, plutôt en analogie, en équivalence avec cette pièce de Bob Dylan. If I can't please him, donc ça, c'est un petit peu justement un exemple du chant d'un, comme on dit en Turquie, aşık. Donc aşık, c'est le troubadour. Il faut savoir que le mot veut dire amoureux. Hein, donc c'est vraiment des schémas qui ressemblent pas mal à nos histoires à nous de troubadour, amour sacré, amour courtois, amour et mystique et tout ça. Donc il y a tous ces aspects-là se retrouvent. Mais voilà, donc on entend le chant, c'est quasiment qu'une seule note aussi, hein, c'est un petit peu pour faire l'écho avec Bob Dylan, et puis bien sûr derrière on entend les luttes, et voilà, donc cette simplicité, lutte plus voix, et là dans cet exemple-là évidemment une voix beaucoup plus libre, puisqu'il n'y a pas de métrique derrière, c'est non mesuré, comme on dit. Hein. On pourrait parler d'improvisation libre. C'est pas si simple, c'est pas que improviser, mais enfin voilà, c'est au service de la poésie. J'aurais pu en trouver d'autres hein, dans le répertoire de Turquie, en fait, hein, avec ce schéma très simple, mélodique, justement, quasiment qu'une note, avec une petite formule conclusive. Après, on recommence et tout ça. J'en ai plein, et voilà. Bin ahvalimi de valla bi mecalimden bi mecalimden bir haber al getir kapkom ruhi halimden vahleminden erdo halımız sorarsa sevdiğimde billah vasfı halimden vasfı halimden söyle amma derdo Zülfiyare dokunma vahleminde erdo halımız Söyle amma derdo zülfiyare dokunma Vay beni be Öldürdün be
Vous êtes avec les chants du crépuscule sur Radio Campus Paris.
Voilà, alors là, on entre un peu dans le vif du sujet, parce que même aujourd'hui, quand j'écoute ça, je suis toujours très ému, je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'est vraiment une pièce qui m'a profondément marqué, où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect rythmique que je trouve formidable là-dedans. C'est le fait que ce soit de la musique non mesurée, mais on entend tout le temps une rythmicité derrière. Et ça, c'était pour moi qui avait été formé à la musique classique, comme tout le monde, quoi. Enfin, à la musique, on va dire, occidentale et tout. J'étais très impressionné par cette nouvelle manière de penser le temps, quoi, c'est-à-dire du rythme et tout ça, où ça peut ne pas être mesuré, mais on le ressent comme du rythme profondément. Deuxièmement, alors il s'agit de Kurdistan irakien, donc c'est un disque de l'UNESCO qui est magnifique, hein, vraiment, et particulièrement donc cette pièce de 25 minutes où on entend ces deux musiciens, donc il y a deux saz, on va dire. Et leur manière de s'échanger les rôles, c'est-à-dire soit il y en a un qui fait plutôt le bourdon, qui accompagne, et l'autre qui improvise par-dessus. Après, ils échangent et tout. Et à la fin, alors le morceau durant 25 minutes, je l'ai écourté un peu au milieu. À un moment, le son baisse, donc il y a un fade-out, et immédiatement après, à nouveau fade-in, parce que j'ai pris la fin pour qu'on fasse entendre comment ça débouche sur un air de danse, tout à fait classique, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un halay en Turquie, hein. La danse, vous savez, où tout le monde est enchaîné les uns aux autres, et voilà. Ouais, j'ai pas parlé de la souplesse du plectre parce que là on l'entend, on commence à entendre cette fameuse élasticité du contact du plectre sur la corde. Ce qui me travaillait beaucoup, c'était que je voulais absolument moi-même produire ce son en fait. Alors là, il s'agit d'un chant chanté par Temo, barre de kurde, comme on l'appelait à l'époque. C'est possible que ce soit un des tout premiers kurdes enregistrés en France, enfin, en tout cas paru. C'était un disque paru chez Okora Radio France, chant d'exil du Kurdistan, je crois, le titre. Bon. Donc vous voyez, j'ai découvert beaucoup ces choses-là par le Kurdistan et le Kurdistan d'Irak, puisque Temo, il venait aussi du Kurdistan irakien. Après, en fait, je l'ai rencontré. Il avait un atelier de luthier rue des Couronnes à l'époque à Paris. Donc, je l'avais rencontré. Quand j'ai écouté ce disque, jamais j'aurais imaginé que j'allais le rencontrer un jour en fait à Paris. Juste, déjà, vous entendez à nouveau ce qu'on va appeler prélude au sens propre du mot. On joue avant, donc prélude. Et dans le prélude, on entend toujours cette chose qui, moi, m'intriguait énormément. Donc, cette espèce de souplesse, d'élasticité du plectre, ça, on l'entend bien. L'extrême précision aussi, parce qu'on sent que c'est très précis. Il y a l'attaque du plectre, mais il y a la précision de la note aussi, puisque par contraste, il y a des notes qui semblent moins précises. Il y a une manière d'orner qui fait que... Mais on sent bien que l'attaque, c'est extrêmement précis. Et le dernier aspect vraiment, pour moi, qui était là, très, très audible, c'est le fait qu'il y avait des intervalles. En tout cas, on en entend un à un moment, on entend bien une note, on se dit, tiens, c'est pas tempéré au sens tempérament égal. Et donc, le fait des fameuses notes des gammes je découvrais ça, quoi. Enfin, des échelles orientales avec des intervalles ni mineurs ni majeurs. Moi, ça me réjouissait parce que j'ai compris ça assez vite. Et j'aimais bien parce que j'aimais beaucoup quand Bartok disait qu'il fallait délivrer la musique de la tyrannie du mineur et du majeur, comme il disait. Et là, j'avais une musique qui était surprenante parce qu'on échappait à cette division. Voilà.
Nefencima rumur kibim havar jide stiduri Nefencima
Voilà, alors Talib Özkan, immense joueur de saz. Oh, bah, on disait oui, peut-être c'est une sorte de Paco de Lucía du saz en Turquie. C'est pas vraiment ça, mais bon, c'est quand même presque ça, parce que personne, je n'ai jamais vu personne qui jouait comme lui. Bref. Mais là, il s'agit donc d'un disque d'ailleurs qui est célèbre et qui a été publié chez Okora Radio France aussi, dont le titre est « L'art vivant de Talib Özkan ». Ça faisait partie des disques que j'ai écoutés. Et ce morceau en particulier m'avait tout à fait saisi. C'est le tout premier du disque et ça s'appelle Bozlak. Bozlak, j'apprendrai plus tard que c'est un genre, en fait, chanté, ce qu'on appelle en Turquie un erlon, c'est-à-dire on chante, inspiré par la poésie chantée, en y mettant l'expressivité qu'on veut. Donc c'est non mesuré. Mais là, à nouveau, alors, imitation instrumentale du chant. Hein, Talib ne chante pas de Bozlak, mais il fait sur l'instrument, en fait, l'imitation du chant. Et c'est là qu'on entend quand même quelque chose que j'ai déjà évoqué tout à l'heure avec Bob Dylan ou même avec le deuxième morceau, à savoir cette capacité à rester très longtemps sur une même note sans qu'il n'y ait aucune espèce de monotonie, parce qu'en fait, quand il joue là, on entend cette note-là, elle est présentée sous tellement de figures différentes, justement, ornées de différentes manières, etc., qu'en fait, on peut tenir plus d'une minute facilement sur la même note. Et ensuite, bon, bah, je voudrais insister là sur le son extraordinaire de ce saz, qui est un vieux, vieux saz que Talib avait chez lui. Voilà, et vous entendez sans aucun doute, sans que j'aie à commenter plus, la maîtrise incroyable de ce musicien. Le fait qu'on a tout un parcours qui dure donc 9 minutes 40, si je ne me trompe pas, qui est un vrai parcours, tout à coup, à l'intérieur d'un mode. Donc ça va être un point important, à savoir les modes. Et on est là dans une figure que j'appellerais le mode du flamenco.
Thank you. C'est avec le chant du crépuscule sur Radio Campus Paris.
Oui, alors évidemment, c'est un magnifique duo de Paco de Lucía avec son grand ami Camarón de la Isla, et qu'en fait, je pense qu'ils avaient peut-être 25 ans à tout casser quand ils ont fait ces enregistrements. Donc, hommage que je rends à ces années aussi que j'ai vécu un peu dans ce monde du flamenco. Et aussi, pour montrer une correspondance, donc c'était un des grands thèmes de Talib Özkan, ça, il me disait, écoute, il y a une correspondance étonnante entre les musiques d'Anatolie centrale et Le flamenco, en fait, alors lui, il faisait élaborer des tas de théories que c'était des musiciens turkmènes qui étaient arrivés en Espagne pendant l'Espagne arabe, enfin, et tout ça. Bon, ben, ça, c'était les théories, toujours de dire, ah oui, oui, mais en fait, l'origine, elle est là-bas. C'est qu'en fait, forcément, pour que le flamenco ressemble à la musique d'Anatolie, il fallait que les musiciens viennent d'Anatolie, quoi. Donc, ce qui est absurde, mais c'est comme ça. C'est des coïncidences, mais on a la même modalité. Et il y a aussi d'autres choses, c'est le cri, et vous allez comprendre pourquoi par le morceau suivant. Et puis aussi cette figure aussi du mode qu'on descend plutôt qu'on ne le monte. C'est-à-dire qu'en fait, quand on démarre, on est plutôt dans les degrés en haut, et puis après ça descend, voilà. Donc je pense qu'on peut directement aborder maintenant le morceau suivant qui vient vraiment d'Anatolie centrale, du coup.
Entre l'opinara verde di frutta.
Alors cet exemple, je l'ai choisi parce que, en gros, quand je le fais entendre à des gens, les gens tout de suite me disent « Ah, mais ça me fait penser au flamenco, en fait. » C'est pour ça que je l'ai choisi. Mais c'est vrai que, déjà, en plus, c'est encore un hommage que je rends à un personnage extraordinaire, donc qui s'appelle Muharrem Ertaş, un vieux monsieur. Quand il joue ça, il n'était pas loin de 80 ans, je crois. Et c'est le papa d'un immense chanteur, une grande vedette, disons, du chant en Turquie, qui s'appelle donc Neşet Ertaş. Et pendant très longtemps, tout le monde connaissait Neşet, mais on ne connaissait pas Muharrem, parce qu'il y avait des enregistrements d'archives, mais qu'on ne connaissait pas. Et puis, quand ces enregistrements d'archives ont paru, on était tous par terre, parce que je me disais, oh là, mais évidemment, quand on a compris d'où sortait la vedette, quand on a entendu le père, voilà. Sinon, ce que je disais tout à l'heure, donc cette histoire un peu du cri, enfin, c'est à la limite entre le chant et le cri, cette manière de démarrer par un cri, et ensuite de descendre par paliers successifs dans le mode, c'est très particulier. Alors, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure, ce que j'appelais le bozlak. Là, on a entendu avant Talib qui jouait tout seul sur son saz et qui imitait le bozlak avec sa virtuosité là, de joueur de saz. En vrai, c'est ça, c'est un bozlak avec cette dimension criée, modale, avec peut-être, bon, on va pas faire de la musicologie, mais c'est assez frappant d'entendre quand il descend par palier aussi, que ça module à l'intérieur, on n'est pas toujours dans le cadre strict de l'échelle et tout. Et c'est un peu le mode du flamenco finalement, hein, comme on dit, ce qu'on appelle chez nous le mode demi.
Thank you.
Aman araba pınarı da yakın. İler yıralı yıralı. Yüce dağdan aşan yollar bizimdir.
Donc la différence importante entre ce morceau et peut-être ce qu'on a entendu avant, Cameron et du flamenco, c'est que ce morceau, on écoute ça, on se dira, ah oui, il est en train de se lamenter, aïe aïe ma mère, comme ils disent dans Astérix, là. Et pas du tout, donc c'est amusant de faire remarquer que c'est un chant guerrier, où c'est un nomade turkmène qui révoltait contre l'État central et qui dit à ses copains, allez-y, montons sur nos chevaux. Il dit, le décret appartient au padishah, au sultan, mais à nous avons les montagnes. Et ça rigolait pas à l'époque, hein, entre les nomades turkmènes et l'État qui essayait de les soumettre. Il y avait des révoltes, voilà. Et c'est plutôt ça. Donc pas du tout un chant de lamentation, mais un chant guerrier. Donc pour juste souligner la relativité très grande des émotions en fait exprimées par la musique, qui sont conventionnelles. Cette fois, c'est moi qui ai fait la prise de son, comme on dit dans notre profession, sur le terrain. En fait, qu'est-ce qui s'est passé entre tout ce qu'on a entendu avant et là? C'est que finalement, à force d'écouter Talib, tout ça, donc je suis allé en Turquie. Et puis par différents chemins, progressivement, je me suis retrouvé dans des villages dans le sud-ouest du pays, dans les montagnes du Taurus. Et j'y ai rencontré évidemment pas mal de monde, mais en particulier le monsieur que vous entendez ici, qui s'appelle Hayri Dev, qui a été, après Talip Özkan, on va dire, ça a été mon deuxième grand maître de musique. Donc là, on entend justement un son assez différent de ce qu'on avait entendu avant, puisque lui, il joue d'abord un petit luth, le baglama, comme on dit, baglama. Le saz est grand, je veux dire, il peut faire 1m10 ou quelque chose comme ça, alors que ce petit-là, il ne fait pas plus de 50 cm de long. Et il est à 3 cordes. Et là, en plus, on entend non pas jouer au plectre, mais jouer avec les doigts, avec le bout des doigts, sans ongles ou pas trop d'ongles. Et ensuite, on s'aperçoit aussi qu'on entend des coups de percussion. Et ça, c'est quand la main droite descend, enfin donne un coup sur les cordes vers le bas. Avec le revers de l'index, on en profite pour frapper sur la table de l'instrument. Donc évidemment, ça donne un accompagnement rythmique qu'on va d'ailleurs entendre encore plus précisément dans la pièce suivante, où cette fois, on va entendre Hayri et ses copains. Donc cette fois, on entend le petit luth, donc avec d'autres, alors ils sont plusieurs, et il faut s'imaginer une pièce d'une maison, dans le village, là, dans la montagne. C'est des pièces pas très grandes, je pourrais dire 3 mètres sur 4 à peu près, donc les gens sont assis tout autour. Alors il y a à une extrémité, il y a les musiciens, donc ils sont, je crois qu'ils sont là, ils sont 2 ou 3 à jouer le petit luth. Et puis surtout, ça danse en même temps. Et puis il y en a qui interviennent en chantant. Bon. Donc voilà, c'est donc la convivialité musicale par excellence, hein, ça, c'est ces réunions, des veillées, en fait, à la maison, où les gens se retrouvent, et puis, soit en buvant un coup d'alcool, ce qui est possible, parce qu'en Turquie, l'alcool est quand même fort apprécié, malgré l'islam. Mais là, non, je crois même pas, parce que c'est des gens qui cultivent des pommiers, alors je me souviens qu'ils avaient des pommes, et ils partageaient leurs pommes et ils buvaient le thé. En fait, ça peut être très sobre et c'est exactement la même chose, que ce soit très sobre ou pas, et c'est le même comportement, il n'y a aucune différence. Aussi, je voulais faire une remarque, c'est que là, vous entendez clairement le rythme, donc ça, c'est quand même une dimension importante aussi de toute cette histoire, c'est qu'on a un rythme que j'appellerais à 4 temps et demi. Ça veut dire, c'est tac, la, ta, ta, ta, ki, ti, ta, ta, la, ta, ta, ta, ta, ka, ta, ra, ka, la, ta, ta, ta, ta, ka, ta. Alors, ça se note 9, 2, plus 2, plus 2, plus 3, mais en réalité, quand on entend les frappes, justement, c'est mieux de dire 4 temps, dont le dernier temps est le plus long d'une demi. Donc c'est, on va dire, noir, noir, noir, noir pointé, si on se dit en musique. Voilà. Et ça, c'est donc très impressionnant parce qu'on est là dans une région du monde, enfin une région de Turquie, mais aussi une région du monde, où ce rythme-là est la norme, en fait. C'est le rythme que tout le monde joue et que un deux temps, comme nous, on est habitué, c'est assez rare. C'est souvent pour conclure... dans les fêtes, on termine parfois sur un rythme binaire tout simple, mais qui n'est pas du tout la norme. La norme, c'est l'irrégulier. Donc ça, pour quelqu'un qui vient de l'étranger, c'est quand même fascinant. On a envie de comprendre plus, on a envie de savoir plus. Voilà. Donc c'était un moteur de ma recherche, ça.
Vous êtes avec les Chants du Crépuscule sur Radio Campus Paris.
Et en fait, quand je vais sur le terrain, c'est souvent ce qui se passe, on ne s'attend pas toujours à ce qu'on va trouver. Et je me retrouve devant d'autres timbres. Moi, j'étais très obsédé par mes histoires de luth, de saz, de plectre, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis finalement, voilà, je vois un monde très différent, parce que très coloré. Donc une première couleur, c'est celle du hautbois qu'on vient d'entendre, qu'on appelle zurna, qui est le hautbois des fêtes par excellence. Donc dès qu'il y a un mariage, vous allez entendre ce couple-là qu'on appelle Davul Zurna. Les gens, ils disent « Ah, Davul Zurna », c'est presque comme un seul mot. Davul, c'est la percussion, quoi. Hein. Donc Davul, Zurna, et on dit souvent en un seul mot, parce qu'on ne peut pas du tout les dissocier. Dans une fête de mariage, ils sont nécessairement tous les deux. Et vous trouvez ça de la Chine jusqu'à la Bretagne, hein, parce que la bombarde bretonne, finalement, c'est une Zurna, c'est la même chose, hein, tout ça. C'est le même... Donc musique de fête. « c'est vrai que peut-être pour une audition simple, c'est un peu lassant, mais il faut bien comprendre que tout ça, visuellement, c'est très différent, parce que si la musique est répétitive, la danse, elle, ne cesse de varier. Donc, bien sûr, quand on regarde ça dans une fête de mariage, on pense même plus que la musique est répétitive, parce que ça n'arrête pas de changer, en fait, devant nous, par la danse. Et puis, c'était une manière de confirmer aussi le rythme dont je parlais tout à l'heure, hein, donc, tac, tata, tita, tac, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ta-ka-ta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Alors donc là, à nouveau, dans cette découverte des sons auxquels je ne m'attendais pas, il y avait quelque chose dont me parlaient beaucoup les musiciens, qui étaient des hommes, bergers, donc des traditions pastorales, on est dans un monde pastoral, qui me racontaient tout le temps des histoires de leur jeunesse, de leur enfance, avec les filles qui chantaient un chant qu'ils appellent Boaz. Alors Boaz, ça veut dire la gorge. Et donc, c'est des chants de gorge, et effectivement, les jeunes filles, quand ils gardaient les troupeaux, allumer les mecs, en fait, c'est ce qu'ils disent, hein. C'est-à-dire que c'était des airs à faire flamber les garçons. Et que c'est un chant donc, qu'elle faisait avec une émission vocale et où on appuyait avec le pouce sur la glotte, en fait, pour faire des variations comme ça.
Kıramadın buzunu Aldım kerkez kızına Çekemedin nazına
Alors là, vous allez entendre trois pièces finalement, donc avec Riley Dev et son groupe là de copains. On n'entend que ce rythme-là sur des musiques très répétitives. Mais cette répétition est un plaisir aussi parce qu'en fait, on s'aperçoit que ça nourrit la répétition. C'est-à-dire, c'est comme si on épuisait la forme. C'est-à-dire, on entend la même forme répétée pendant trois minutes, ça s'intensifie en fait. On peut pas du tout s'en lasser, mais au contraire, y trouver un plaisir renouvelé aussi dans la répétition. Donc vous allez entendre successivement ce qu'on appelle un sipsi, qui est une petite clarinette de roseau à peine plus grosse qu'un crayon. Enfin, c'est vraiment très petit, alors que vous entendez que c'est un volume sonore quand même assez considérable. Et c'est donc la petite clarinette idioglotte, si vous voulez, qui ensuite peut se transformer en cornemuse si on en met plusieurs et avec un sac. Mais là, c'est donc le sac, il est dans les joues du musicien qui souffle en respiration continue, évidemment, en respiration circulaire. Donc ça a été publié, c'est un enregistrement que vous trouvez dans un disque chez Okora Radio France qui s'appelle « Le Sipsi des Yaïla ». D'abord, il y a l'arrivée du violon, ça c'est important, parce qu'au fond, moi j'étais très préoccupé par mes histoires de lutte et tout, Et un jour, il y a un instituteur qui m'a dit « Koulak, tu vas voir, il est impressionnant, violoniste, tout ça ». Et en fait, je suis tombé sur un personnage absolument incroyable, un musicien mais extraordinaire. Donc c'est le deuxième, on va dire. Il y avait Hayri Dev, le joueur de luth, et il y avait Koulak, violoniste, qui a été pareil, un ami incomparable. Et d'ailleurs, j'ai souvent pensé que s'ils n'avaient pas été musiciens, j'aurais été exactement, enfin, aussi fier d'être leur ami, quoi. Parce que c'était humainement, c'était des gens incroyables. Je veux dire, même s'ils n'étaient pas musiciens, ils valaient le détour, déjà, comme personne, comme force, etc. En fait, il faut repérer là où ça fait 3. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Quand on a repéré dans le morceau où est le groupe de 3, on va dire, ou le temps long, c'est pas de chercher un premier temps, de se dire « Ah, où est-ce que ça commence ?» Non, on a repéré le groupe de 3. Parce qu'en fait, souvent, comme c'est circulaire, on s'en fout un peu de savoir quel est le premier. L'important, c'est que ça soit bien calé, quoi. Voilà. Une variante du sipsi de tout à l'heure. Donc là, il ne s'agit plus de clarinette, il s'agit de hautbois, mais c'est presque le même instrument, à savoir qu'on a le même corps de roseau, comme je disais tout à l'heure, pas plus gros qu'un crayon, mais l'embouchure n'est plus donc du roseau avec une anche taillée, hein, ce qu'on appelle techniquement, on dit clarinette idioglotte, c'est-à-dire l'anche, elle fait corps avec l'embouchure et tout ça. Là, il s'agit donc d'une anche en écorce de pin. Donc c'est très étonnant et je peux vous garantir que c'est un des seuls lieux, enfin en tout cas c'est le seul lieu où on ait vu ça. Et depuis que sont morts les personnes qui le jouaient, plus personne ne joue ça, c'est-à-dire ça a vraiment disparu. Donc je suis très fier, disons, d'avoir fait connaître, même en Turquie, le son de cet instrument qui n'était pas connu. Là, donc, on a totalement changé de monde et d'ambiance. On va dire, tiens, on fait un petit passage par Istanbul où j'ai été conduit dans ce qu'on appelle un teke. Teke, c'est pour dire en tout cas un lieu de culte et un lieu de partage d'une confrérie pour ce qu'on appelle tarikat, qui se traduit plutôt par la voix. Mais chez nous, on dit confrérie soufi, hein, confrérie musulmane, ça. C'est différentes voix. Comme on dit en Turquie, hein. Il y a une seule voie, mais beaucoup de sentiers. Et là, c'est des gens qui s'appellent eux-mêmes les Kaderis. Donc, c'est une des grandes confréries soufis de l'islam qu'on trouve partout, hein, en fait, dans tous les pays musulmans, la Kaderia. Et donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, vous allez le mardi soir, c'était tous les mardis, vous avez des gens qui arrivent du boulot, en fait. Hein, ils viennent du boulot avec leur costard et tout, et puis ils viennent là, on boit un thé, et il y a le rituel qui commence, en fait. Hein, et c'est un rituel où il se passe évidemment beaucoup de choses, qui a toute sa structure. Mais là, ce que vous entendez, c'est une partie importante qu'on appelle le zikr. Zikr, donc zikr en arabe, hein, c'est l'idée de remémoration. C'est-à-dire qu'on on nomme Dieu, son nom, soit Allah, soit Hu pour dire lui. Il y a des gens qui sont assis en cercle et qui font l'ostinato, on va dire, répétitif, avec juste un mot, hein, ou Allah, ou Hu, comme je disais, et qui sont... Ils ont un maître de cérémonie qui les guide aussi pour les changements de rythme. Parfois, dans le morceau, on l'entend. On entend un frappement de main pour changer le rythme. Et puis derrière, vous avez au début un soliste qui est le cheikh, c'est-à-dire le supérieur de l'ordre qui chante, lui, son hymne. Et puis après, vous en entendez trois ensemble qui vont chanter en chœur aussi des hymnes par-dessus. Ça m'a conduit vers quelque chose qui était très absent de mon autre terrain, là, des montagnes, qui, eux, sont des gens très dans l'immanence. Ils n'en ont pas grand-chose à faire de la religion et de la transcendance divine et tout ça. Le rituel est très beau parce qu'il y a sans doute des choses physiologiques qui se produisent à cette répétition du nom avec, évidemment... un travail respiratoire, on parle d'hyperventilation, de choses comme ça. Bon, donc ça doit changer quand même un peu l'état. Il n'y a pas de manifestations spectaculaires, de transe et de choses comme ça, hein, qui sont des choses qui ont été très inhibées en Turquie. Vous allez chez les Kaderi du Kurdistan iranien, mon prof Jean During m'avait montré des choses, il s'embroche, il bouffe du verre, enfin il y a plein de choses comme ça, alors qu'en Turquie, non, il y a un côté... on a un peu enlevé toutes ces choses, je crois, hein, en Turquie. Donc, il n'y a pas trop ça, mais à la fin, c'est très sympa parce qu'on se réunit tous et on mange tous une bonne soupe avant de rentrer chez soi. Les gens sont... voilà, c'est très fraternel, très chaleureux et tout. Et c'est extraordinairement spectaculaire. Je veux dire, moi, j'avais la première... Enfin, je suis allé plusieurs fois, mais là, cette fois-là, vraiment... j'ai senti une, à la fois donc quelque chose de très fort, si vous voulez, on peut dire mystique entre guillemets, mais même musicalement, il y a une évolution, une avancée des formes qui est incroyable. Donc ça dure quand même assez longtemps, ça dure 2 heures à peu près ce rituel.
Hayır! dernière. Okay. Un, deux, trois.
Vous êtes avec les chants du crépuscule sur Radio France Paris.
C'est sur Radio France
Paris. Radio Campus,
Paris.
Il a dit Radio France. Mais je suis vrai.
Sel şahi merdam Nenni ha nenni Mümürler unuttu Farzı sünneti Değmiyor dişlere Tercümaneti
Toujours la même configuration, hein, on va dire celle qu'on avait au début avec Bob Dylan et tout, c'est-à-dire l'instrument et la voix. Mais vous allez voir après, donc, on va retourner dans les villages et dans le monde rural, mais cette fois plus mystique, justement, et plus soufi, qui est mon terrain actuel.
Gözüm yaşı Sel şahi merdam Nenni ha nenni Akar gözüm yaşı Sel şahi merdam Yüzüm görmek nasip Oldu güzeller Hamdülillah haki Hayayı sürdük Ali şanım senden Gayrı kimin var yüzü güneş anlı Ay ay sürdük ay hay ay hay Güneş güneş Yüzüm görmek nasip bu güzel yer Allah
Les Alévis, donc, qui sont une branche tout à fait populaire et rurale de ces traditions soufis, donc on dit les Alévis, il y a les Bektachis, mais moi je veux juste montrer le fait que toujours en suivant cette histoire du timbre, du saz et de tout ça, eh ben, on est conduit nécessairement à ça. Donc je ne l'ai pas non plus forcément cherché, c'est venu à moi forcément par le travail de terrain, c'était inévitable de tomber là-dessus, un jour ou l'autre d'ailleurs. Je le savais avant même de partir, j'espérais que j'allais pouvoir rencontrer ces gens. J'avais vraiment très envie. Et c'est pas si facile au début, parce que c'est un milieu un peu fermé, un peu secret. Ils ont été beaucoup persécutés, massacrés, enfin, etc. Donc, c'est un milieu qui se protège aussi, où on n'entre pas comme ça facilement. C'est un djem qu'ils ont accepté de faire pour nous, pour qu'on en fasse un CD. C'est-à-dire qu'en fait, c'était d'ailleurs le premier CD de djem Alévi enregistré, presque totalement, qui est apparu chez Okora Radio France sous le titre « Cérémonie du djem Alévi ». Et ce morceau-là, c'est justement un sema. Et donc, malheureusement, vous ne pouvez pas voir la danse, évidemment, parce qu'on est juste à la radio. Mais au moins, en écoutant, vous vous apercevez que d'abord, il y a des changements de rythme et que ça implique justement une espèce d'intensification tout à coup dans le mouvement même des danseurs. Et vous les entendez aussi qui parfois crient. Enfin, voilà un cas où la ferveur religieuse s'exprime en dansant.
Gülden ahal yaşa. Ah ah ah ah ah ah. Deli gönül, deli gönül, yine geldi de coşa. Vahiy taban, vahiy taban, alı ayağı sürdür. Esirinden,
gücüne gider, sevdim seni. Gücüne gider, sevdim seni. Hayallerim çıkmaz benden. Hayallerim çıkmaz benden. Derde koydum güzel beni, derde koydun güzel beni. Hatır kalsın yol kalmasın, hatır kalsın yol kalmasın. Çıktım yükseğe baktım, çıktım yüksek yine baktım. Bozularım oldum aktım, bozularım oldum aktım. Ne fakirler kahve çekti, ne fakirler kahve çekti. Hatır kalsın yol kalmadı, hatır kalsın yol kalmadı.
Alors cet extrait, pour moi, est très important parce que d'abord, il est tiré d'un disque qui n'a jamais été réédité en CD, malheureusement. Donc c'est un disque extraordinaire en double 33 tours qui s'appelle « Voyage d'Alain Gerbrandt en Anatolie, 1957-58 », je crois que c'est écrit en plus. Et donc, Alain Gerbrandt, je ne sais pas si nos auditeurs le connaissent, mais c'était un écrivain, poète, explorateur, on va dire aussi, et qui est connu surtout pour une expédition Orénoque. Et en fait, voilà, en 57, il était allé en Turquie, il a découvert des endroits cachés, secrets, mystiques, justement très étonnants, à une époque où d'ailleurs c'était beaucoup plus difficile encore qu'à mon époque à moi. Moi, c'est 97, voilà, et lui, c'est 57, donc 40 ans avant. Voilà un morceau que j'ai entendu. Ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai entendues, où je me suis dit, il faut absolument que je connaisse ce monde-là, ce milieu-là. Et j'y suis arrivé par des voies totalement détournées. C'est-à-dire au point que je suis allé exactement aux endroits où Alain Gerbrandt s'est trouvé, et je ne le savais même pas. Et c'est en revoyant le disque et en lisant la pochette, je me suis dit « Ah, mais c'est pas possible, en fait, je me suis retrouvé là où il était. » Donc, parce qu'il parle exactement de ce village qui s'appelle Tekeköyü, il parle de Abdal Moussa, donc c'est là où maintenant je fais mon propre travail d'enquête et de terrain. Voilà.
Ağlamasın, ağlamasın. O kalim dost, ağlamasın.
Il faut savoir que c'est des rituels très étonnants, mais ils durent très longtemps. Hein. On arrive vers 7h du soir et on en sort à 2h du matin à peu près. C'est un rituel qui est composé d'un festin, on mange bien, et où on boit l'alcool rituellement. C'est-à-dire, ce qui est quand même assez surprenant dans un pays musulman, c'est d'imaginer qu'on puisse boire au nom de Allah, Mohammed et Ali. Hein, par exemple, 3 gorgées en disant « Ya Allah, Ya Mohammed, Ya Ali ». Voilà. Et c'est même un des moments sacrés, on peut dire, du rituel où il n'y a pas de musique. Le seul moment où il n'y a pas de musique, c'est un moment solennel où on doit boire les 3 gorgées. Mais après, on en boit des dizaines et des dizaines en écoutant la musique. Mais il y a un moment comme ça. Donc, c'est très surprenant. Et puis, il y a l'aspect danse, comme je disais tout à l'heure. Donc, bien sûr, un des moments importants du rituel, c'est justement la danse. Et là, on est dans cette configuration. Alors, vous entendez donc le rythme que je disais tout à l'heure, le même que chez les Tartadji d'Alain Gerbrandt. Et puis aussi, vous entendez une transition. J'ai fait exprès de choisir le morceau avec la transition au milieu, parce qu'en fait, il y a 2 poèmes qui sont chantés. Et puis en fait, pour le deuxième, il y a une transition où la danse s'arrête. On va dire, il y a des prières où les danseurs s'inclinent devant le dignitaire religieux, on va dire, qui est là dans le rituel. Et après, ça redémarre transposé, disons une tierce plus haut, pour le deuxième poème. On danse pas forcément sur un rythme, au sens que, d'accord, j'ai compris, voilà, et je vais savoir placer mes pas, bon, et tout. Oui, de l'extérieur, c'est comme ça. Moi aussi, j'ai appris à danser en mettant mes pas sur les temps forts et des choses comme ça. Mais profondément, pour eux, au niveau, enfin, je sais pas, cognitif, profond, on danse quand même sur de la poésie. C'est-à-dire, c'est vraiment le texte poétique qui porte, finalement, la puissance de la danse. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. C'est pas l'intensité musicale, comme nous, on se dit, tiens, ah oui, ils chantent mieux, alors on danse mieux, ou quoi. Mais non, c'est pas ça. C'est vraiment le texte poétique qui est porté autant par le chanteur, finalement, les chanteurs, ils sont plusieurs, vous avez entendu, et par les danseurs, qui sont des couples. Alors, j'ai oublié de signaler que dans cette confrérie, la parité, l'égalité des sexes, là, est vraiment quelque chose de fondamental. On assiste au rituel qu'en tant que couple, marié. Et on est 2. C'est homme et femme. Donc, les femmes sont très, très présentes dans le rituel. Il y a des groupes confrériques dans lesquels les femmes ont vraiment un rôle de premier plan. Elles peuvent être aussi chanteuses. Moi, j'en ai pas eu dans ma communauté, des femmes chanteuses, mais il y a des communautés où il y a des femmes qui chantent pour le rituel, enfin voilà.
Shut up.
Un grand merci à Jérôme Clair de nous avoir permis de faire ce pas de côté pour, à travers son parcours personnel, découvrir d'autres façons de faire de la musique. Quant au Chant du Crépuscule, émission coproduite par Radio Campus Paris et la Compagnie des Rêves Lucides, rendez-vous le 19 juin pour notre dernier épisode, qui sera dédié aux goguettes parisiennes avec Pascal Grégis, le responsable de notre émission d'anthropologie, sciences humaines et sociales, Les Voix du Crépuscule. Merci, il y a donc 4 semaines.
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah